Vous écoutez Parle-moi de ça, c'est moi, Marcel Richard, votre animateur, puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets de des experts et des non-experts, mais juste du monde intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va! Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue en Parle-moi de ça. Cette semaine, j'ai avec moi Benoît Boudreau. Benoît est un ingénieur mécanique qui a 3 brevets qui portent son nom. En 2018, il a décidé de déménager au Singapour pour le travail, puis il me parle de son expérience. Dans l'émission, on discute de pourquoi est-ce qu'il a déménagé au Singapour, les similarités et les différences du Singlish et le Chiac, les différences culturelles qu'il a vécues au travail, la nourriture et le coût de la vie, parce que moi j'aime ça de parler de manger, puis on parle un peu du climat. Alors sans plus tarder, voici ma conversation avec Benoît Boudreau. Je suis ici avec Benoît Boudreau. Benoît, t'es quelqu'un que j'ai rencontré à l'université, puis j'ai vu un profil de toi qui a sorti, puis je trouvais ça intéressant parce que j'ai vu que t'avais déménagé 3 ans passés à Singapour. Parle-moi de ça.
Ouais, ben t'as raison. J'ai déménagé à Singapour en 2018. C'était pour un nouveau changement de carrière finalement. Pas dans le même domaine, mais j'ai changé de compagnie. J'ai commencé ma carrière à Dieppe. J'ai été consultant là pour 6 ans. Ben là, j'ai déménagé à Edmonton pour une nouvelle compagnie. Là, à Edmonton, j'avais des clients que je faisais affaire avec. Puis là, ben finalement, il y avait une présence globale. Ça fait que il y avait un rôle qui m'avait venu aux yeux. Ça fait que là, j'ai dit, je vais peut-être les contacter puis dire, hey, ben vous êtes mon client, ben vous me connaissez bien. Ça fait que moi, je suis intéressé d'aller par là-bas. Ça fait que finalement, j'ai eu un offre de job. Ça fait que j'ai déménagé à Singapour. Ça fait que là, ça fait 3 ans, presque 3 ans que je suis ici.
Sur quoi est-ce qui t'a intéressé about Singapour spécifiquement? La job, I guess, était là. Ben pourquoi? T'as dit que tu voulais kind of aller par là. So, c'est quoi ce qui faisait vouloir aller en Asie?
Ma femme, en fait, elle est coréenne. Puis là, on parlait de la famille, puis commencer une famille, puis tout ça. Ça fait que là, on pensait d'aller plus proche de la maison. Ça fait que c'était soit plus proche de ma maison ou sa maison. Ça fait que là, on est en train de parler de ça. Puis là, finalement, au début, notre plan, c'était d'aller en Corée du Sud. Mais finalement, le poste était en fait en Corée. Mais là, ils m'ont juste dit, garde, c'est pas, on cherche vraiment comme quelqu'un qui est 100% native speaker. Mais même si que je parlais quand même coréen relativement bien, c'était pas exactement ce qu'ils cherchaient. Ça fait qu'ils m'ont mis dans un poste dans l'équipe, mais qui était à Singapour parce que c'est là où c'était la majorité de l'équipe. Ça fait que finalement, ça comme on a décidé d'essayer ça. C'était pas vraiment ça le plan original, mais c'était comme un petit peu une nouvelle aventure en même temps. Ça fait que j'étais pas 100% certain, honnêtement, où est-ce que c'était sur la map. Fallait que je garde, puis je savais à peu près, mais là, fallait vraiment que je garde parce qu'ils m'ont fait cette offre-là. Ça fait que là, on a décidé juste y aller. Et j'ai commencé une nouvelle vie ici. Ça fait que là, c'est comme j'ai dit, ça fait une couple d'années qu'on est ici. Ça fait que ça va pas mal bien.
Cool. Ben, Singapour, c'est une place que j'assume que la majorité du monde a jamais été. Puis ils connaissent peut-être très peu. C'est une ville qui est aussi un pays, si je me trompe pas.
Oui, t'as raison.
Parle-moi un peu de c'est quoi ce que ça représentait pour toi avant Singapour? C'est quoi ce que tu pensais ou tu croyais que ça allait être? Puis comment est-ce que ça a été différent de te trouver là, finalement?
Ouais, ben, quand est-ce que j'ai... Ma première chose que j'ai vue, je sais pas si tu as vu le film Crazy Rich Asians.
Non.
Ça a sorti en 2018 ou 17 ou quand même. C'était comme un an avant, disons, qu'on déménage là-bas. Puis c'était comme la première fois que vraiment que j'imaginais puis que je voyais qu'est-ce que c'était. Avant de déménager ici, honnêtement, j'étais pas 100% certain qu'est-ce que je m'attendais. Je savais que voyant comme des YouTubers puis des blogs puis des affaires, comme je voyais qu'est-ce que les expatriés, qu'est-ce que c'était leur vie ici. Mais honnêtement, comme avant 2018, j'avais pas une opinion très formée de Singapour parce que j'avais jamais vraiment trop pensé avant de venir ici.
J'imagine qu'il y a quand même eu quelque sorte de choc que tu t'attendais pas. Je suis curieux, c'est quoi ce que tu t'attendais le moins que tu as vraiment trouvé surpris d'aller en Asie, de travailler en Asie, vivre en Asie?
Ben, la bonne chose de Singapour, c'est que il y a plusieurs langues, mais c'est anglais finalement qui est parlé très couramment. C'est avec, premièrement, une des choses qui est pas trop choquante, c'est le langage. Tu peux quand même te faire servir en anglais. Il y a beaucoup de différents langages ici, comme il y a du chinois, il y a du tamil comme indien, malaisien. Mais la majorité des choses sont en anglais. Mais il y a quand même le Singlish, qui est Singaporean English, qui est comme un petit peu comme le chiac, en fait, parce qu'ils mélangent le... Ils parlent comme leur propre version de l'anglais, puis il y a comme un nom pour ça, ça s'appelle Singlish. Ça fait que ça, c'était la première chose qu'il fallait que je m'habitue. J'étais pas habitué à entendre cet accent-là parce que c'est pas quelque chose que tu entends dans les médias trop, mais c'est comme... C'est le même qu'ils parlent comme normalement. Ça fait qu'il y avait tellement de petites phrases puis petites affaires qu'il fallait que je m'habitue au début que j'étais vraiment pas habitué. Mais là, après comme un mois, je dirais, j'ai commencé à comprendre les expressions, puis là, mon oreille s'est comme habitué à la manière que le monde parlait. Ça fait que finalement, c'était pas si pire que ça. Mais au début, je me rappelle, le premier mois, je trouvais que je comprenais même pas mes coworkers, je les comprenais pas tout le temps, okay, qu'est-ce qu'ils disaient. Ça fait que ça, c'était probablement la première chose.
C'est intéressant parce que j'avais ça comme une de mes questions, de comparer le Singlish avec le Chiac. Puis j'étais curieux si c'est kind of comme comprendre un accent. Parce que je me rappelle quand j'arrivais à l'université avec mon accent de l'école de Bouctouche que j'avais été à, mais le monde ne me comprenait pas beaucoup. Comme ils m'auraient pointé comme quelqu'un qui avait un accent très fort de la région que je venais de. Puis je m'ai ajusté beaucoup à comme changer la manière que je formulais les choses. Donc, j'étais curieux si le Singlish, ça sentit plus comme apprendre le coréen, juste apprenais vraiment une différente langue, ou c'était plus comme essayer de modifier ton accent?
Non, c'est un accent, definitely. Il y a beaucoup d'influence du chinois puis comme du malaisien. Ça fait que la forme que des phrases vont être différentes, mais vraiment, c'est vraiment anglais à la base. Puis aussi, c'est comme un anglais avec un accent de l'Angleterre à cause de comme l'historique de l'occupation qu'il y a eu ici dans le passé. Okay. Ça fait que c'est un petit peu mélangé avec comme un accent de l'Angleterre avec la forme des phrases sont plus chinoises. Ça fait, okay, que souvent, il y a des mots qui sont comme perdus. Les phrases sont un petit peu à l'envers, mais c'est tout anglais. Ça fait que c'est plus comme un accent, je dirais.
Yeah, cool. C'est ce qu'on retourne sur comme les choses que tu n'expectais pas vraiment. J'imagine que la culture est quand même assez différente. Puis je me demande comment est-ce que ça a été d'être d'une place à juste que tu es vraiment en dehors. Tu sais, tu as été de l'Acadie à OS. C'est quand même assez pareil, là. Mais quand est-ce que tu arrives en Asie, comment est-ce que le côté culturel joue là-dedans, ça, de t'établir là?
Tu sais, c'est un gros topic, disons, parce qu'il y a tellement... Premièrement, à Singapour, ça, c'est une place, mais moi, dans mon rôle à ma compagnie, je fais affaire comme tout en Asie, ça fait comme en Inde, au Japon, en Australie, quasiment tous les pays dans l'Asie où est-ce que ma compagnie a une présence. Puis chaque pays aura comme sa propre culture, disons. C'est certain que finalement, quand ce que tu parles à quelqu'un comme one-to-one, ça va être la personne, ça va pas être du pays où est-ce qu'il vient, mais il y a plein de choses culturelles que tu remarques. Tu remarques en Asie, je dirais qu'il y a une culture avec un petit peu plus de respect pour la hiérarchie. Ça fait que quand ce que, disons, comme le boss est là, comme la manière que le monde parle au boss, puis la manière que le boss parle à son boss, puis tout ça, tu vois qu'il y a un petit peu plus comme un genre de respect dans l'air qui est pas nécessaire. C'est comme des règles culturelles. C'est pas vraiment écrit nulle part, mais c'est comme compris. C'est qu'il y a des pays que, disons, puis Singapour, c'est pas exactement comme ça, mais traditionnellement, ça l'était. Tu peux pas vraiment sortir du bureau avant que ton boss est parti. Okay. Son boss peut pas partir avant que son boss est parti. C'est fait que si t'es comme un nouveau employé, comme t'es entry level, tu vas être comme le dernier à sortir la soirée parce que tu sens un petit peu la hiérarchie dans l'air. Ça fait que tu te sens un petit peu mal de partir avant que ton boss est parti. Ça fait que ça, c'est des choses que tu remarques un petit peu. Ma compagnie, c'est une compagnie internationale. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment ces normes-là qui sont très établies. Mais le monde que je travaille avec me compte beaucoup d'histoires comme ça. Quand dans les compagnies qui sont comme très locales, il peut y avoir parfois des aspects culturels comme ça.
OK. Je trouve ça vraiment intéressant. Surtout que comme là, toi, tu es une position de management. Puis je pense que tu as rentré d'une position de management, n'est-ce pas?
Pas tout à fait. J'ai commencé comme j'étais juste un ingénieur, disons. Après comme 2 mois, j'ai devenu un gérant. J'étais le manager pour l'ingénierie mécanique et électrique pour mon département. Puis là, juste dernièrement, comme 6 mois passés, j'ai devenu le gérant pour tout le département d'ingénierie. Dernièrement, tout ce que je fais, c'est le côté management.
Ça, je trouve ça intéressant parce que je suis curieux que, tu sais, des fois, tu aurais quelqu'un qui viendrait de l'extérieur d'une compagnie qui serait le manager. Il y aurait peut-être comme des employés qui n'aimeraient pas ça, qui trouveraient ça plate. Puis là, s'il y a une culture de respect du management, je suis curieux comment est-ce que ça joue en compte, puis comment est-ce que tu trouves ça de manager des personnes avec peut-être un background culturel différent que le tien?
Ouais, ben ça c'était, je dirais, mon plus gros challenge dès le début, parce que premièrement, moi, mes employés, ils sont pas tous à Singapour, même si moi je le suis. J'ai des employés dans 7 différents pays. Ça fait que plusieurs pays sont un petit peu différents, puis c'est certain que chaque personne est différente aussi. C'est que dans les cultures plus traditionnelles, une chose que j'ai remarqué, par exemple, c'est comme, disons qu'on prend le Japon, par exemple, c'est une culture qui a beaucoup de respect, puis faut vraiment t'assurer que comme, il y a pas de inconvenience envers les autres par rapport à qu'est-ce que toi tu fais. C'est qu'il y a vraiment comme une partie culturelle puis de respect. Ça fait que moi, j'étais un petit peu habitué à mes façons normales. Si t'es dans une réunion, ben, tu parles, tu dis qu'est-ce que t'as à dire, puis c'est fini. Mais comme au Japon, puis ça a pas pris longtemps avant que je remarque ceci, mais tu remarques que, spécialement si t'es le boss, mais en général aussi, si on est en train de parler d'une réunion ou même si qu'on est comme one-to-one, il va avoir un petit moment de silence après que quelqu'un finit de parler. Puis normalement, c'est comme un petit peu... au début, moi, je trouvais ça un petit peu bizarre parce que je me sentais comme s'il fallait que je continue à remplir l'atmosphère. Mais là, j'ai remarqué que en fait, c'était pour montrer qu'ils avaient, disons, considéré le point de vue de la personne. Donc, ils sont en train d'y penser. Ça fait que le petit pause après une question ou après que quelqu'un a dit quelque chose, c'est un petit peu une manière culturelle de répondre aussi. Ça fait qu'en tant que manager, ce qu'elle a fait, c'est que là, j'ai remarqué que normalement, quand quelqu'un me regardait, puis quand quelqu'un qui était dans mon équipe me parlait, le point de vue de la hiérarchie était vraiment visible parce que là, au lieu d'avoir comme une discussion un petit peu, disons, ouverte, juste normale, on dirait qu'il fallait plus que je mène la conversation au début. Ça fait que, mais aux autres aussi, faut que tu remarques qu'ils travaillent pour une compagnie internationale. Ça fait qu'on s'est comme un petit peu rencontré tout le monde dans le milieu pour essayer de se comprendre. Mais une chose qui marche vraiment pas comparé à qu'est-ce qu'on est habitué, c'est comme des jokes, c'est de l'humour. Comme de l'humour, ça passe vraiment pas trop bien à travers des cultures. Ça fait faut vraiment être comme un petit peu sélectif avec la manière qu'on utilise l'humour au travail parce que le monde parle pas anglais. C'est comme leur langue natale. Aussi, l'humour, ça peut être culturel. Ça fait que là, finalement, ça, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup quand j'étais un manager au Canada, mais que c'est faut que tu changes un petit peu tes manières parce que à travers des différentes cultures, c'est quelque chose qui marche pas trop bien.
OK. Je suis curieux si que comme ici, on dirait que c'est comme commun d'être comme disputé après ton boss, là. Ouais. Avec les coworkers, c'est comme ça donne comme un point en commun de tous les coworkers de disputer après le boss parce que tout le monde a le boss.
C'est ça, tout le monde a un ennemi commun.
That's right. Même si le boss a right, tu vois still ça. Mais je suis curieux si que comme la hiérarchie est actually legit, comme si c'est vraiment comme qu'il y a vraiment un respect pour ton boss ou c'est-il faut que tu montes du respect pour ton boss, ben, tu peux rire de lui dans son dos.
C'est sûr que si qui me parle de moi, je suis pas là. Ça...
Ah oui.
C'est dur à dire, mais j'oserais dire que généralement, ces jokes-là seraient beaucoup plus faites de façon vraiment entre deux personnes qui sont vraies, qui se trustent vraiment, tu sais, là.
OK.
Ça fait que c'est un petit peu, je dirais que c'est fait moins ouvertement que, tu sais, comment est-ce qu'on est habitué normalement au Canada.
Ouais, yeah. So, de quoi que je me demande, parce que vraiment, j'ai pris connaissance que tu étais au Singapour parce que j'ai vu un article qui avait sorti par la faculté d'ingénierie à l'Université de Moncton, que tu étais là puis tu travaillais. Puis, je suis curieux de comment est-ce que c'est avec l'éducation que tu as reçue au Canada versus, on dirait qu'on a cette impression-là ou cette image-là qu'en Asie, ils sont très forts en mathématiques. Puis, il y a aussi comme une éthique de travail, ce qu'on dirait qu'ils travaillent tout le temps. Je suis curieux si que c'est des stéréotypes ou si que, comment est-ce que tu as fait pour t'adapter à ça ou si que vraiment c'est kind of plus des stéréotypes puis c'était kind of facile.
Ouais, au début, je suis pas trop sûr à quoi m'attendre comme parce que là, tu penses, OK, ben oui, j'ai été à l'université de Moncton puis c'est une bonne université, mais comme c'est pas la plus grosse université puis tu penses, là, tu fais compétition avec c'est à l'échelle globale, right? C'est vrai que d'un coup, tu as comme un petit peu ce complexe d'infériorité-là dans ta tête, même si je suis confiant dans, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris, que là, je n'étais pas trop sûr à quoi m'attendre. je me suis rendu compte que finalement, ça qui est le plus important, c'est les principes de base. Ça fait que peu importe quelle industrie que tu es dedans, ce que tu apprends à l'université, c'est les principes de base. Puis ça change pas partout. J'étais surpris dans le sens que, oui, à ma compagnie, comme il y a beaucoup de monde qui sont très intelligents, mais ça change quand même pas le fait que l'éducation que moi j'ai eue à Moncton était super. Vraiment, je remarque que ça dépend un petit peu de non seulement si tu peux, si tu as compris les principes de base, mais aussi comment dire que tu travailles une fois que tu es dans ton industrie, puis tout ça. Ça fait que c'est certain que comme à Tokyo, en Inde, même à Singapour, comme il y a des polytechniques et des universités techniques qui sont super fortes, mais t'sais, Moncton est quand même m'a donné la base que j'avais besoin. Puis je dirais que ça dépend plus du monde que des pays, parce que finalement, oui, les universités sont fortes, mais t'sais, l'éducation était quand même vraiment bonne.
Yeah. Mais trouves-tu que comme tu as mentionné comment tu travailles, puis je le connais pas, mais tu sais, l'éthique de travail, je file en Asie, est beaucoup plus, je sais pas comment dire ça, on dirait que, puis ça, je me demande, c'est peut-être un stéréotype, mais moi, personnellement, je vois qu'en Asie, ils travaillent beaucoup, on dirait, t'as-t-on parlé de, tu sais, du monde qui travaille 7 jours sur 7, que c'est, tu sais, que c'est un, quand même une culture de vraiment tout donner à l'entreprise que tu travailles pour, puis je suis curieux si tu vois ça ou si c'est juste un stéréotype, puis que, tu sais, qu'à la fin, même nos 40 heures par ici qu'on mettrait versus les 60 heures par là, on finit par faire de quoi de similaire.
Ouais, je dirais que ça dépend un petit peu des pays. Comme il y a des histoires qui sortent, comme du Japon spécifiquement, où est-ce que tu commences une compagnie, tu te retires à cette compagnie-là, tu es comme presque, tu sais, c'est comme tu travailles. J'avais dit plus tôt là que comme tu sors pas du bureau avant que ton boss est parti, puis lui sort pas avant que son boss est parti, puis etc., etc. Je vois, puis le monde me dit que ces manières de penser-là sont en train de changer. Le Japon est probablement un des exemples où est-ce que c'est le pire, mais c'est pas de même partout. Ça fait que c'est un petit peu plus nuancé que ça. Tu sais, le monde travaille dur, oui, mais il y a du monde qui travaille average aussi. Quand je suis à Edmonton, la compagnie que je travaillais pour aussi, il y avait beaucoup de monde qui travaillait dur là, puis c'était beaucoup des Canadiens. Ça fait que je dirais que ça dépend plus des gens, mais côté culturel, c'est difficile de dire. Il n'y a pas juste une réponse, parce que ça dépend plus des gens que rien d'autre.
Ça, c'est quoi la standard work week à Singapour?
Ben, pour moi, c'est un petit peu différent, parce que là, je travaille pour une compagnie globale. Ça fait que moi, j'ai souvent des appels avec du monde des États-Unis, puis là, avec l'Europe aussi. Ça fait que moi, c'est pas rare d'avoir une réunion ou deux ou des fois trois jours par semaine que je commencerai à 6 heures le matin. Mais c'est pas tout le temps. Mais là, je prends un petit peu de temps dans mon matin pour avoir le déjeuner avec la famille, puis là, j'amène mon garçon à l'école, puis tout ça, puis là, je continue. Normalement, je continue de travailler jusqu'à environ, disons, 5h30 ou 6, puis là, c'est le reste du temps, c'est le temps pour la famille. Ça dépend un petit peu du temps. Ça dépend aussi de la compagnie où est-ce que tu travailles. Je dirais que ça dépend aussi des pays. Comme une chose que j'ai remarqué, parce que j'ai du staff qui travaille pour moi qui est en Inde. En Inde, une culture différente, c'est comme ils commencent à travailler tard puis ils finissent tard. Comme ils vont rentrer, comme c'est ça, je dis ça, on parle d'un plein pays avec des milliards de personnes.
Là, oui, juste comme...
En général, c'est comme ça serait normal de rentrer au travail à 9h30 ou 10, puis il n'y a pas vraiment d'heure fixe, mais là, le monde va continuer à travailler jusqu'à 8h, 9h le soir. Ça fait que tu vois comme des différences entre les pays. Ouais, ça fait que Singapour, je dirais qu'en général, parce que c'est un hub pour plein de compagnies internationales, puis il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de diversité culturelle, puis tout ça, que c'est comme relativement normal, comme tu sais, 8 à 5 ou 8 à 6 ou quoi même, comme c'est pas mal normal, ouais.
Avec deux journées de vacances comme samedi,
ouais,
dimanche.
Samedi, dimanche, comme normal, yep.
OK. Y a-t-il beaucoup de vacances? C'est de quoi qui est curieux? J'avais un ami français qui travaillait avec moi à ma dernière compagnie, puis il me disait, parce qu'il regardait à venir au Canada, il avait dit comme, ah ouais, c'est bien, les conditions de travail sont assez similaires, mais tu vas avoir 2-3 semaines de vacances max. Il était comme, ben voyons, puis parce qu'eux, ils étaient accoutumés d'avoir beaucoup plus de temps de vacances. Est-ce que c'est similaire? C'est quoi ce que c'est au Singapour pour ce côté-là? Est-ce qu'il y a quand même assez de temps pour voyager et puis avoir du temps off.
Ouais, ça c'est important parce que ici, parce que c'est tellement central, c'est important de voyager. Dans mon cas particulièrement, c'est 4 semaines. Ça fait que c'est à peu près normal. Je suis pas sûr qu'est-ce qui est comme minimum par la loi.
Okay.
Mais j'oserais dire que c'est probablement moins que ça. Mais ouais, le monde, c'est le monde voyage pas mal beaucoup ici parce que c'est quand même c'est comme un city state, c'est une île. Puis c'est aussi un pays. Ça fait que là, c'est pas mal commun. C'est autre que dans un contexte pandémie. Tu prends un avion, tu vas à Bangkok ou tu vas à Brunei ou tu vas à Jakarta ou n'importe où, là, tu peux aller à Bali, comme c'est 1h30, 2 heures de vol, ça fait que c'est vraiment proche de tout ça. Ça fait que le monde en profite beaucoup parce qu'il y a plein de places proches d'ici qui, ça fait que, en termes de vacances, ouais, ça aide, puis ça, dans mon cas, c'est 4 semaines. Ça fait que c'est à peu près pareil.
OK. So, I guess qu'à la fin de ça que je prends de toi ou de l'expérience que tu as eue, peut-être la vision qu'on aurait de, tu sais, qu'en Asie, tu as besoin de travailler 6 jours par semaine, 14 heures par jour, c'est pas vraiment la réalité.
Non, je dirais que tu as raison, c'est pas la réalité. Il va y avoir des cas que oui, mais tu sais, dans mon cas, c'est plus similaire que, tu sais, que je m'attendais, comme il y a beaucoup, beaucoup de similarités. Les fins de semaine sont comme généralement respectées. Tu sais, le 8 à 5, c'est quand même relativement ça la règle, mais tu peux avoir une compagnie qui va te pousser un petit peu plus, une compagnie qui va pousser un petit peu moins, mais en général, c'est la même chose au Canada, right? Comme il y a des compagnies qui vont faire travailler le monde plus. Ça fait que je dirais que c'est comme la même différence ou la même chose.
Cool. C'est quoi les stéréotypes, on va dire, que le monde de l'Asie a envers les Canadiens ou les Américains qui rentrent travailler en Asie?
Ouais, ben, quelque chose que je me suis fait demander souvent, c'est comme, sais-tu comment utiliser des chopsticks? Peux-tu manger de la nourriture qui est épicée? Tu sais, je me fais demander des affaires même pas mal souvent. Même quand je suis en Corée, comme moi, parce que je parle coréen, comme je suis pas mal conversational, ça fait que le monde dit tout, même si que je dis juste comme bonjour ou hello en coréen, comme le monde, c'est comme, oh my god, comme tu parles tellement bien, puis c'est comme, ok, c'est pas, ce praise-là est pas vraiment en ligne avec ce que je viens de dire, mais en tout cas, ça fait que oui, je dirais qu'il y en a, mais c'est pas fait de méchanceté, c'est plus comme... fait de curiosité, je dirais.
Mm-hmm. Puis est-ce que tu dirais que les Canadiens sont bien vus? Comme est-ce que tu dis, c'est comme, tu sais, qu'ils aiment ça que de voir des Canadiens en Asie ou que c'est kind of comme, ils sont venus ici pour un autre job?
Ouais, je dirais que j'ai jamais eu de commentaires négatifs envers ça. Ça fait que je dirais que généralement, c'est bien vu. C'est drôle parce que, tu sais, comme Canadiens, les États sont juste en dessous de nous autres. Ça fait qu'il y a un petit peu comme, tu sais, on aime des fois te moquer des affaires ou des différences. Mais c'est drôle aussi comment est-ce que, quand est-ce que je clarifie que je suis Canadien puis pas Américain, le monde comme comprend ou pense un petit peu différemment, mais aussi ils sont pas mal curieux. Ça fait que là, comme quand ils voient mon nom, ils demandent tout, une question que j'ai comme à chaque jour presque, c'est je viens de Québec. Parce que le monde savent qu'il y a des Français au Canada, puis ils savent que c'est au Québec. Il y en a qui savent même pas. Mais si qu'ils savent ça, c'est vraiment rare qu'ils savent qu'il y a d'autres places autres que le Québec, qu'il y a des Français. Ça fait que c'est comme une petite histoire que je peux commencer d'utiliser pour, break the ice des fois, mais le monde ne connaît pas tout ça.
OK, cool. C'est certain que comme Singapour est quand même assez, je pense qu'il est assez multiculturel, qu'il y a beaucoup de gens, parce que c'est un hub, n'est-ce pas? Comme Singapour est quand même un business hub, à juste qu'il y a beaucoup du commerce qui se passe là. So, j'assume qu'il y a des gens de partout qui sont là, ou c'est-il quand même assez asiatique à Singapour?
Non, il y a beaucoup de monde de plusieurs pays. Vraiment, là, il y a beaucoup d'Européens, il y a des Australiens. Parce que c'est un hub de business, il y a plusieurs personnes qui ont comme leur hub en Asie et à Singapour. Parce que, un, c'est anglais, ça fait que disons que tu es une compagnie américaine, tu veux faire affaire en anglais. Deuxième, géographiquement, c'est comme dans le centre, tu sais, ça fait que ça aide. Puis aussi, comme la stabilité politique aussi est pas mal bonne. Ça fait que tous ces facteurs-là font que c'est un hub. Et aussi, géographiquement, tout ce qui vient, comme disons, du Middle East, tous les bateaux, comme ils passent tout par Singapour. Ça fait que tout ce qui va, comme disons, de la Chine, Japon, Corée, Taïwan, tout ça, il y a comme un strait, comme il y a de l'eau qui est juste là. Singapour, c'est une île, mais pas juste en avant de Singapour. Ça fait que c'est comme un arrêt très, très, très courant pour le shipping global.
OK, cool. So, tu parles de le côté politique. Je suis curieux, comme le système légal à Singapour est quand même connu comme, ou de ce que je vois, étant assez strict, on va dire, à juste que tu es au Canada, tu peux pousser 500 grammes de cannabis d'un été, puis à Singapour, tu peux avoir la debt penalty pour oui. avoir le même montant de cannabis là. Trouves-tu que c'est une place où tu te sens vraiment en sécurité, puis trouves-tu que c'est comme restrictif un peu comparé à ce que tu es accoutumé au Canada?
Le taux de criminalité est extrêmement bas ici. Comme si tu te sens en sécurité presque n'importe où, n'importe quelle heure où est-ce que tu sors, c'est vraiment impressionnant, faut le dire. Oui, c'est un pays qui est connu pour avoir des lois qui sont très, très strictes, comme ton exemple de la marijuana, comme tu es probablement une des personnes les plus stupides si tu essaies d'importer de la marijuana, parce que c'est tellement une grosse pénalité pour des petits montants que vraiment c'est comme un deterrent, disons. Il y a vraiment aucun problème de crime ou de drogue ou ça qui sont reliés à ça, parce que c'est tellement, disons, des règlements stricts que vraiment ça a un effet qui réduit beaucoup la criminalité.
Mm-hmm. Trouves-tu que c'est comme, ça feel restrictive? Comme, trouves-tu que c'est comme un peuple qui se sent contrôlé, ou qu'il y a quand même, c'est juste, fais pas de drogue puis tu seras right?
Non, parce que je trouve que il y a beaucoup de règlements qui sont quand même relativement common sense, puis tu peux faire n'importe quoi ce que tu veux, mais il y a beaucoup moins de tolérance envers les petits crimes, disons. Comme on dirait que c'est comme normal, disons, pour nous autres comme Canadiens, de penser que c'est comme toléré, c'est pas la fin du monde. Mais ici, comme c'est c'est différent, il y a beaucoup moins de tolérance envers ça. Mais d'un côté, c'est comme, c'est pour l'argument, puis là, je suis pas un analyste politique ou rien de même, mais l'argument, c'est que ça a un effet positif dans le sens qu'il y a vraiment pas de problème de drogue chez les jeunes ou rien de même. Mais en termes de comme ta vie normale, du moins que tu n'étais pas quelqu'un qui aimait la marijuana au Canada avant,
oui.
Vraiment, il n'y a rien qui est différent. Comme, tu sais, tu peux faire n'importe quoi ce que tu veux.
C'est que t'aimes de boire aussi, ça va te coûter cher, c'est ça que je vois.
Ouais, l'alcool puis la bière, c'est très, très cher. Comme une bouteille de vin serait... Si tu n'en trouves une à 25 piastres, t'es chanceux, puis ça n'est pas une bonne.
Yeah. OK.
La bière aussi, comme il y a une bière nationale, ça s'appelle Tiger Beer. C'est...
Tu la vois par ici aussi, je pense?
Ouais, ouais, c'est pas mal commun. Ça fait que c'est un petit peu comme la Budweiser du pays, là, comme c'est une lager, c'est light, puis c'est OK. Mais ça, c'est quand même comme, je crois que c'est comme 3 piastres et demi ou 4 piastres la bière, puis ça, c'est comme la plus cheap. Si tu veux comme si t'es un fan de comme craft beer, que tu veux un bon IPA de l'Australie ou des États-Unis, ça va coûter 8 ou 9 piastres la bière. Ça fait quoi? Okay, l'alcool est taxé.
Je pensais que c'était plus cher que ça. J'avais vu de quoi que ça disait que comme c'était de quoi comme 50 piastres du litre ou de quoi de même qui était taxé la bière. Je pensais comme, oh wow, ça c'est comme beaucoup ça. Mauvaise sauce. Ou...
Ouais, non, si t'achètes comme un 12-pack de, disons, comme n'importe quoi, là, ça te coûtera probablement 40 piastres, peut-être 50 ou 60, si ça en est comme une, plus comme une craft beer, là, au coup de main.
Yeah. So, comment est-ce qu'elle coûte la vie, là? C'est-il cher?
Ouais, c'est extrêmement cher.
Ah ouais.
Pour donner un exemple, comme un appartement à deux chambres, parce que c'est un pays, il y a comme environ autant de monde que la ville de Toronto, comme Greater Toronto area, ouais. GTA.
C'est plus petit Greater Moncton.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme deux fois plus gros que... C'est plus petit que Greater Moncton, puis je pense que comme ouais. Moncton comme tel, c'est peut-être comme deux fois ou trois fois plus gros. Ça fait que tu penses comme tout ce monde-là dans une petite place comme Moncton, ou deux fois ou trois fois plus que Moncton, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Puis c'est un île, ça fait que le coût de la terre, disons, est très cher. Ça fait qu'un appartement juste comme, disons, normal, deux chambres, va te coûter 2500 piastres par mois ou quoi de même. Ça fait que ça, c'est okay. Comme, ça, c'est de base. Mais tu, yeah. tu peux aller une place plus centrale avec un petit peu plus gros, puis là, ça va te coûter 3, 4, 5 000. Ça fait que c'est très cher.
Ah, puis ça, on parle des dollars canadiens ou?
Oui, oui. Ben, c'est comme 98%. Ça fait que c'est à peu près la même affaire, ouais.
la nourriture est-il about le même prix aussi? Ou?
Oui, ça, c'est une chose qui est le fun. C'est que la nourriture, le spectrum est vraiment, vraiment large. Ça fait que tu peux aller au magasin, disons, au coin de la rue, puis tu peux avoir comme de quoi de local, comme disons, comme du poisson, puis des nouilles, puis des légumes pour comme 3$.
OK.
Mais il y a beaucoup, beaucoup de restaurants comme Michelin, puis des places haut de gamme aussi. Ça fait comme le... Vraiment, en termes de nourriture, Singapour, c'est extraordinaire. Il y a une culture riche qui vient de la Chine. Ça fait qu'il y a même du monde qui joke, qui dit, ben, la nourriture chinoise est meilleure à Singapour.
OK.
Ça fait qu'il y a vraiment toutes sortes de nourriture indienne. Si tu manques pas, si t'es un foodie, Singapour, ça devrait être aller, je dirais.
Cool. J'ai tout été un peu curieux. Tu sais, tu vois, j'ai des movies, ils sont tout le temps en train de manger au restaurant, des affaires de même. Je me demande comme une place où ce que j'assume que tu sais, t'as un appartement, même si tu as deux chambres, c'est still pas un gros deux chambres. T'as probablement pas une grosse cuisine, hein, si tu peux cuisiner toutes sortes de choses. So, je me demande si c'est comme, c'est juste commun d'aller manger à des restaurants parce que c'est juste plus facile et plus convenient parce que t'as pas une grosse cuisine pour faire beaucoup de quoi, ou est-ce que c'est quand même pas une culture d'aller manger au restaurant?
Non, le monde sort beaucoup, beaucoup. Puis nous autres aussi, à la maison, ouais. On sort beaucoup. Parce que finalement, si tu peux aller manger quelque chose qui est, comme j'ai dit tantôt, comme 3$, puis c'est peut-être quoi qui est suffisant. Ça fait que tu peux sortir puis manger vraiment, vraiment cheap, ou tu peux manger quelque chose de plus western. Tu peux avoir de la pizza si tu veux, ou tu sais, n'importe quoi aussi. Ben, il y a vraiment n'importe quoi ce que tu veux. Mais t'as raison, les cuisines sont vraiment petites. Ça fait que le monde cuisine pas beaucoup. Puis aussi, juste généralement, comme culturellement, pour aller de nouveau à la première question que tu avais demandé, comme des choses différentes. La culture, la nourriture fait une grosse partie de la culture ici. Comme même faire business international, des choses comme ça. C'est normal d'avoir comme une réunion au bureau, puis là, tout le monde sort pour avoir le souper après. Puis ça fait comme partie culturellement de comme bâtir des relations puis des affaires de même. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont sortis souper tout le temps à toutes sortes de places. Puis ça aide aussi que c'est une place tropicale. Ça fait que il y a plein de patios, puis t'sais, plein de places que tu peux aller, tu peux marcher, tu peux aller dehors, il fait beau. Ça fait que on prend avantage de ça.
J'ai entendu dire qu'il y avait quand même 4 saisons à Singapour qui étaient chaud, plus chaud, de la pluie, puis plus de pluie.
Exactly. Exactly. c'est drôle parce que je pense, si je me souviens bien, le record pour le plus froid qu'il y a comme ever fait, c'est comme 19 degrés.
OK.
Puis comme, ce qui fait comme 22 ou 23, comme le monde porte comme des hoodies puis des affaires, comme le monde sont vraiment pas habitués à, pas tout le monde, là, mais tu peux en trouver un qui exagère dans la rue ou dans le métro, disons, là.
C'est comme le gars qui porte des shorts quand il fait 10 degrés.
Oh, ouais, là. Exactly. C'est la même chose, mais le contraire. Ça fait que, oui, puis c'est ça, comme au début de l'année, comme le mois de, disons, comme la fin novembre, décembre, janvier, il mouille beaucoup. Mais le reste du temps, c'est chaud, super chaud, chaud, pluie. Ça fait que, ouais, c'est tropical.
Comment tu trouves ça personnellement?
Ben, au début, j'aimais bien ça, puis là, je vais pas sonner comme si je me plains parce que c'est tropical, puis c'est très beau, là. Une affaire que j'ai remarqué après comme 6 à 8 mois, c'est que, comme Canadien, on est habitué que chaque saison change. Tu sais, à chaque 2-3 mois, le monde est hot à l'été. T'as quelque chose, you're looking forward to it, right? Mm-hmm. Et moi, après comme 6 mois ou 8 mois dans un pays tropical où est-ce que ça changeait pas, je me sentais comme si, comme, il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il change parce que ça changeait juste pas au début, la première année.
Yeah.
Et c'était comme, je pouvais pas comprendre pourquoi que ça changeait pas. Mais là, finalement, c'est ça. J'ai remarqué que, moi, je suis habitué qu'il y ait comme un cycle qui, à chaque 3 mois que les saisons changent. Mais là, moi, j'étais dans une place qui fait, c'est comme tu as dit, chaud, chaud, chaud ou de la pluie. Puis, c'est comme le temps, c'est time stand still, quasiment. Parce que là, tu te sens pas comme si t'es comme si tu regardes l'été s'en vient, là, t'as hâte à l'été. Comme t'as pas vraiment hâte à la prochaine saison parce que c'est la même saison qui s'en vient. Ça fait que ça, c'était une des choses que j'ai remarqué après, comme disons, 6 ou 8 mois, c'était, comme le fait que moi, j'étais tellement habitué que les saisons changent.
Yeah. Ouais, je peux vraiment voir. C'est intéressant de penser ça, le time standstill, parce que je pourrais voir que, comme, il y a cet effet-là, parce que, veux pas, comme tu dis, parce que l'été arrive, comme right now, on est au printemps par ici, puis c'est excitant, puis c'est pas parce que le printemps, c'est une belle saison, il mouille tout le temps. Mais savoir que l'été s'en vient, là, c'est super excitant. Il y a de quoi qui est comme, on dirait comme un petit jeune à Noël, même à 37 ans, là, que je sais que l'été s'en vient, je suis excité, il y a de quoi qui est comme comment awesome que l'été est. Puis des fois, je me demande si que, as much que moi, je haïs l'hiver, hein, être à quelque part qu'il n'y a pas l'hiver, si que j'apprécierais moins l'été. Puis je suis curieux comment tu feel about ça, puis si que tu trouves que ça aime en ligne avec ça que tu disais aussi.
Ah oui, 100%. Comme je l'apprécie peut-être pas assez, là. Tu sais, je l'apprécie quand je parle à mes parents, puis du moins de même, puis là, quand je vois qu'il y a de la neige dehors, je pense, OK, ouais, faut que je l'apprécie. Mais non, t'as 100% raison, comme, là, tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis ici que tu l'apprécies même pas. Ça fait comme, une fois que tu vas dans l'hiver, je pense que ça te fait apprécier l'été plus, exactement comme tu dis. Je suis 100% ouais. D'accord avec ça.
Mais ça qui est plate, c'est que comme, il fait still pas beau à être dehors, though, right? Comme, il fait chaud, sure, but être comme, c'est meilleur, comme je pense que c'est peut-être même meilleur qu'il fait fret que qu'il fasse 40 degrés, là, tu sais.
Ouais, comme il faut que tu t'habitues à être un petit peu en sueur tout le temps, tu sais. un petit sac avec toi, puis t'as comme une serviette, puis une chemise de spare, parce que là, tu peux te changer si t'as trop sué, mais.
Cool. Je trouve ça vraiment intéressant comment vite qu'une personne s'accoutume, puis comment est-ce que c'est. À la fin, on est adaptable comme humain, je pense qu'on, no matter quoi c'est la situation, tu finis par juste devenir la norme, puis là, still sorry.
Ouais, non, t'as raison, je pense que, tu sais, on peut s'adapter à plein d'affaires, puis ça, la culture, la météo, tout ça, c'est toutes des adaptations.
Sur quoi tu trouves le plus difficile à t'adapter à?
C'est intéressant parce que, ben, premièrement, moi, là, maintenant, ça fait presque 3 ans que je suis ici, puis là, j'ai un petit garçon de 2 ans. Ça fait que la première chose que j'ai le plus de difficultés, c'est une nouvelle famille, parce que ça, c'est difficile à faire de loin. Ça fait que de loin, être dans un nouveau pays avec un nouveau petit garçon dans une nouvelle compagnie, les trois en même temps, ça a tout clashé en même temps que c'était difficile à s'adapter. Mais en termes de dans les affaires locales, une des choses que ma femme puis moi, on manque beaucoup du Canada, c'est le service à la clientèle. Puis c'est pas pour dire que c'est mauvais ici, mais c'est juste un exemple qui m'a frappé au début. On avait été manger à un restaurant, puis là j'avais demandé si je pouvais avoir un refill de qu'est-ce que je suis en train de boire. Puis là, j'avais juste dit comme tu can have a refill. Puis en bon singlish, elle m'a répondu cannot. Là, moi j'étais comme c'est comme j'étais pas habitué à comme ce genre de...
C'est comme direct, là, c'est comme non.
Ouais, c'est comme non. Mais là, finalement, c'est juste la manière que le monde parle, comme c'était pas... Il y avait rien envers moi, c'était juste c'est juste comme de même. Moi, comme mon point de vue canadien, c'était comme... J'étais juste comme offendé, je pensais comme... en tout cas, ça fait quoi? Ouais, ça, c'est comme une de mes premières expériences que je pensais, OK, ouais, ça, c'est différent.
Ouais. I guess c'est que tu te demandes comme j'ai-tu fait quelque chose pour l'offender? Comme ouais, elle était comme non, je te sers pas là.
Ben c'est ça, je n'étais pas trop sûr. Puis là, ben finalement, tu te fais dire ça 3, 4, 5, 10 fois. Puis là, tu penses, OK, c'est ça n'a rien à faire avec moi.
So, y a-t-il de la nourriture? Je pense juste la manger. Moi, j'ai joué vraiment ça manger. Y a-t-il du stuff que tu manques du Canada?
Ouais. T'sais, tu peux
Poutine râpée.
Ouais, Poutine. Poutine râpée. Comme tu peux avoir de la pizza, puis des hamburgers, puis des affaires de même, là, comme ah ouais, du stuff comme de base. Des affaires vraiment canadiennes comme du homard, comme ici ça coûterait une fortune, puis c'est même pas le bon homard, c'est comme le homard okay. D'ailleurs, ça fait
absurde.
ouais ça fait qu'il est pas aussi bon que par chez nous. C'est une bonne poutine là, après d'avoir sorti avec des coworkers puis avoir pris une coupe de bière, ça y a rien qui adoucit ton ventre comme c'est comme ça, tu sais, là y a pas vraiment d'équivalent.
Non, j'essaie d'expliquer au monde.
Ben, pas de poutine, hein? pas de poutine avec le squeaky cheese, là.
Ben, OK, je figurais que comme une poutine râpée, non, là, ben, j'aurais pensé que des fries puis de la gravy puis du fromage, ça serait peut-être trouvé.
Fry puis gravy, tu peux probablement demander, ben, ça prend le fromage et tout, right?
So, ah ouais, yeah.
Puis ça, j'ai pas encore pu trouver ça.
OK, le squeaky cheese existe juste pas.
Non, ben, j'ai pas encore trouvé. C'est quelqu'un qui connaît.
Ouais.
Laisse-moi savoir.
c'est ça que moi j'enjoy about la cuisine asiatique, c'est que j'aime pas le dairy en général, puis il y en a pas beaucoup. C'est pas de quoi qui est très commun, on dirait, de la nourriture asiatique. So, habituellement, je mange pas mal n'importe quoi parce qu'il y a pas de dairy dedans. pour starter avec? Je sais pas, comme du fromage, c'est-il comme plus dur à trouver en général?
Fructal, comme supermarché, il y en a là. C'est la même chose que par chez nous, mais souvent comme une section, puis ça va être comme des nourritures internationales, puis là, tu vas avoir plein de confitures, puis tu vas avoir des fromages, puis des affaires. Mais il y a quand même comme du lait, puis comme n'importe quel comme gros supermarché, oui, tu peux trouver. C'est la même chose que par chez nous.
Yeah. Si tu serais pour retourner au Canada, qu'est-ce que tu manquerais? Quelle nourriture que tu serais comme, oh, I wish que je pourrais manger un bon?
Une chose que j'avais aucune idée avant que je vienne ici, ça s'appelle du chili crab. Ils appellent ça, okay. C'est comme le national dish de Singapour. Puis c'est du crabe. Mais il y a comme une sauce comme chili avec c'est dur à expliquer là, mais en tout cas ce sauce là avec des petits pains et du crabe, je dis que ça puis une bière froide, ça me fait penser à Singapour 100%. Ça fait que je pense que ça serait mon premier choix.
Yeah. Y a-t-il des bons desserts? C'est-il comme une culture de stuff sucré en tout?
Non.
Non? Ah, je serais déçu.
Ouais, ben, les bons desserts viennent des pâtisseries, comme des pâtisseries françaises, puis ça, là. Yeah. Il y a une affaire ici, c'est comme, ils appellent ça du red bean, puis c'est comme, c'est une bean comme sucrée, puis ça, c'est dans plusieurs desserts asiatiques, mais c'est un petit peu sucré, mais comme c'est pas aussi sucré qu'un vrai dessert. C'est ce que je veux dire.
C'est comme appeler de la tarte aux citrouilles un dessert.
Yeah, exactly. So...
je comprends pas celle-là, moi. La red bean pie, je l'ai mangée, là. J'ai déjà mangé des desserts avec ça, puis je me dis comme, ça file pas vraiment comme un dessert, ça.
Ouais, c'est all right, mais comme, moi, je veux un vrai dessert sucré, là, que t'es écœuré à la fin, you know?
Yeah, ouais. Je veux un dessert que si t'en mangerais 10, là, le 11e, ça serait too much. Moi, j'aime le sucre. But yeah, ça fait quand même le tour de quoi ce que je voulais te poser. Je suis curieux. So, est-ce que tu penses que pour toi, travailler en Asie puis vivre par là, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages pour longtemps? Est-ce que tu as trouvé ta place là? Ou est-ce que tu te dis comme c'est intéressant comme expérience, mais il y avait du stuff que tu enjoyais par chez nous puis tu aimerais peut-être de retourner?
Quand on vit bien ici, c'est sûr, mais c'est loin de la famille. Ça fait que là, avec COVID, ça aide pas, mais là, comme avec mon jeune garçon, je pense à mes parents, puis là, je pense à, j'aimerais qu'il y ait une relation ensemble. Ça fait que ça m'attire beaucoup, là. Comme s'il y a quelque chose qui me gratte, là, qui me chatouille le cœur, c'est la famille spécifiquement. T'sais, en termes de vivre ici, hein, c'est super bien là, c'est quand même excellent. Mais s'il y a une chose qui me ferait retourner, ça serait soit une opportunité de carrière ou la famille, ou idéalement les deux en même temps.
Yeah, ouais, pour sûr. Parce que c'est ça qui est le fun, les opportunités de carrière dans les grosses villes sont quand même assez intéressantes, puis peut-être plus intéressantes parce que tu peux vraiment spécialiser dans des choses que tu connais ou des choses qui t'intéressent comparativement à ici où tu serais un peu plus d'un généraliste. But, avec les jobs qui sont de plus en plus remote, ça pourrait être intéressant, right? Si tu peux faire des choses remotely puis rester à la même position, c'est tout un fun. Surtout dans un rôle, là, est-ce que tu voyageais déjà beaucoup d'avance, but si tu es basé par là, c'est ça que ça reste, I guess.
Ouais. Avant COVID, ben, c'est sûr que là, les time zones, ça aide pas, là. Mais yeah. Oui, comme avant, t'sais, on voyageait une ou deux semaines par mois à différentes villes. Ça fait qu'une semaine, c'était à Tokyo, une semaine, c'était à Sydney, une autre semaine, c'était à Mumbai, là, de nouveau à Tokyo. Ça fait qu'on allait un petit peu partout pour le travail. C'est la seule chose, c'est ça, c'est que moi, maintenant, depuis la pandémie, ben là, je travaille de la maison. Ça fait que je fais mon travail d'une place. Pas besoin d'être à Tokyo pour faire des projets à Tokyo, du moins que tu as des ingénieurs à Tokyo. Ça fait que mon équipe est un petit peu divisée à travers de toute l'Asie. Mais ce qui serait difficile, ça serait les time zones. Ça fait que là, c'est ça, dépendamment du time change, c'est soit 12 heures ou 11 heures de différence. Ça fait que là, il faudrait que je fasse des chiffres de nuit, puis ça fait que ça fait que ça serait difficile, mais je suis d'accord avec toi que là, le plus que le monde travaille de la maison, le plus que c'est remote, le plus que il va avoir des opportunités de, t'as pas vraiment besoin de être à Toronto, par exemple, pour faire un job. Je pense que la pandémie a démontré ça.
Les choses ont-ils changé beaucoup à Singapour avec la pandémie? Ça t'y affecté beaucoup du monde du travail? Puis...
Ben, nous, on travaille de la maison, ça fait depuis le mois de mars, un petit peu comme tout le monde. Puis moi, personnellement, je vais au bureau une fois par semaine. Mais ici, le port du masque, c'est pas un débat politique, c'est juste ouais. C'est juste quelque chose que tout le monde fait. Ça fait que ça, plus ils ont fait comme un bon lockdown au début. C'était long, mais ça a bien marché. Puis là, à cause que c'est un île, ils ont vraiment fait des contrôles vraiment importants pour pas faire sûr que ça rentre pas. Ça fait que vraiment, on est des chanceux. Puis à part du fait qu'on porte le masque, puis que quand on rentre dans n'importe quel bâtiment, faut faire comme un genre de... Il appelle ça comme... C'est comme Trace Together. C'est comme un genre de app que si t'es à côté de quelqu'un aussi, il y a des cas dans le temps où est-ce que t'étais là, t'as comme un texte. À part de ça, vraiment, la vie est pas mal normale. Ça fait que... comme le monde sort, on va au restaurant comme normal. Vraiment... puis il y a comme presque pas de cas dans la communauté. Ça fait comme 8 ou 9 mois là qu'il y a presque wow. C'est pratiquement zéro. Ouais.
C'est le fun parce que comme tu sais le masque était déjà culturellement pas mal accepté en Asie comparé à ici. Parce que le masque c'est pour les autres, c'est pas pour soi. Puis je feel que ici ça a été beaucoup de comme moi j'ai pas peur de ça, je vais pas porter de masque parce que c'est pas about ça, c'est about les autres. Puis comme je feel ça qui a été dur à comme kind of implémenter par ici là, but en Asie, il y avait déjà cette culture-là qui existait, donc je pense que c'était peut-être plus facile.
Ouais, comme ici, c'est normal, même avant la pandémie. Si t'as comme un rhume, tu porterais un masque parce que tu veux pas, c'est pour les autres, tu veux pas infecter les autres. C'est que c'est un petit peu déjà comme normal. Tu vois souvent des images comme à Tokyo, comme, tu sais, le monde porte des masques, puis. De notre point de vue, tu penses, c'est-il tellement pollué là-bas qu'il a besoin d'un masque? Mais la plupart du temps, c'est non.
Peut-être contagieux.
Ouais, c'est peut-être contagieux. Ça fait que c'est plus comme un genre de... pour être respectueux envers les autres. Ça fait que c'était vraiment... il y avait pas trop de controversie envers les masques ici.
Yeah, cool. Ben, merci beaucoup, Benoît. C'était le fun de te parler. Il est minuit maintenant chez toi. Oui. Il est tard. On a 11 heures de différence, de décalage horaire. Puis c'est le fun. C'est incroyable de penser à comment est-ce que, tu sais, que je parle avec toi qui est à Singapour, qui est à 11 heures dans le futur, hein. Comparativement que je parle à quelqu'un qui serait mon voisin, la conversation est quand même la même à travers l'Internet. Je trouve ça quand même intéressant comment bien ça a été puis comment flawless qu'était l'audio. So, même ça m'impresse encore. Tu sais, ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps que c'est le même, mais ça m'impresse still quand même comment que la technologie a vraiment facilité la communication. So, ben, merci Delphine sur le show. Puis je te souhaite du bon succès à Singapour. Puis hopefully, tu pourras retourner à voir les 4 saisons quelque temps.
Ben, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir.
C'est malheureusement la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à marcelrichard.com. Puis dites-moi allô, j'aime tout le temps ça, discuter avec les gens qui écoutent. Aussi, si vous enjoyez les podcasts acadiens, vous pouvez checker acadipod.ca où c'est un regroupement de tous les autres podcasts acadiens de la région. Alors, je vous souhaite une awesome journée puis j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine.